un sombre ciel que les siècles ont dispersé, vivait un grand roi nommé Shahriar qui avait conquis presque la moitié du monde. Il avait placé son frère cadet Shah Zaman sur le trône de Samarcande, puis l'ayant laissé, avait achevé d'immenses conquêtes que personne ne surpassa. Quand il eut conquis l'Inde puis la Chine, après 15 années, il revint dans sa capitale. C'est dans cette ville qu'il eut le désir de revoir son frère. Il fit appeler son premier vizir, celui qui avait pour fille Scheherazade et Dunyazade. Il lui ordonna d'aller sans tarder vers Shahzaman porter son invitation. Sans perdre de temps, et il traversa les nombreux pays qui séparaient les deux royaumes. C'est ainsi qu'il vit bientôt devant lui les hautes murailles de la ville de Samarcande. Sans y pénétrer, il fit installer tout son campement hors de la ville, puis il envoya quelqu'un à l'annoncer. Aussitôt reçu par le roi Shahzaman. Quand Shahzaman lut l'invitation, il voulut y répondre sans tarder. C'est pourquoi son hôte, le premier vizir, laissa son camp hors de la ville. Le soir du départ, ce fut dans ce camp que le roi coucha pour partir dès le lendemain. Mais quand vint l'aurore, il eut le désir de revoir la reine et il retourna au palais. De son cuisinier, les cheveux défaits. Il fut pétrifié par cette vision, crut devenir fou et s'interrogea en lui-même. Alors qu'elle sait que je ne suis pas encore reparti et que je viens pour l'embrasser, celle que j'adore se met dans les bras de ce cuisinier, que fera-t-elle en mon absence ? La rage inondait son cœur, il saisit un sabre, trancha la tête des amants, jeta leurs deux corps au fond d'un fossé, rejoignit les siens et donna l'ordre du départ. C'est dans cet état que son frère aîné le vit arriver et il en fut contrarié. Sans l'interroger sur une affliction dont il devinait qu'elle devait rester secrète, il vint lui offrir tout ce qu'un aîné peut imaginer quand il voit son cadet souffrir. Mais Shahzaman refusa tout, lui refusa même de partir chasser avec lui. Il s'y refusa, n'ayant d'autre envie que demeurer seul. La chasse partit donc sans lui, et il resta seul comme il le voulait, tandis que la nuit peu à peu sur la ville. Le palais est maintenant vide et l'ombre a remplacé la foule. Alors il ouvre une fenêtre pour voir la nuit sur les jardins et la beauté du paysage ravive sa mélancolie. Il voit les arbres, les jets d'eau que la vie, que la brise fait onduler. C'est alors qu'il voit s'entrouvrir une toute petite porte dans le mur du palais voisin, celui où demeure la reine. Et il voit la reine qui vient, suivie de 20 de ses servantes, se promener dans le jardin et s'arrêter sous sa fenêtre. Il les voit se déshabiller et il découvre avec surprise que la moitié de ses servantes n'est pas du sexe féminin. Il entend la reine appeler « Massou !» Un esclave bondir d'en haut d'un des murs sur le sol. Il le voit renverser la reine qui rit aux éclats. Il la voit écarter ses cuisses et l'autre pénétrer en elle. Et il voit les autres convives se conduire de même façon pendant toute la durée de la nuit jusqu'à ce que vienne le jour. Alors se lève de son cœur le froid qui l'avait pétrifié quand il avait vu découvert sa reine avec son cuisinier. Il regarde cette autre reine qui ressemble tant à la sienne avec une curiosité qu'il croyait à jamais perdue. Il la regarde s'éloigner et passer la petite porte suivie par son cortège d'abeilles, toute redevenue pareille. Et la ressemblance des choses que la nuit vient de lui montrer avec celle qu'il a vécue lui fait retrouver ses esprits. Il se dit « Je ne suis pas seul à souffrir de cette infamie. » Je la partage avec mon frère qui est bien plus puissant que moi. Son infortune est bien plus grande que celle dont j'ai à souffrir. Il se met alors à penser à la cruauté du destin qui distribue sans distinction l'infortune aux êtres humains, à la cruauté des injures dont les femmes accablent les hommes, et peu à peu ses réflexions effacent ses blessures anciennes. Shahriar rentra de la chasse, il fut très surpris de voir que son frère allait mieux. Cette si soudaine convalescence le troubla si fort qu'il questionna Shahzaman. « Oh, mon frère aimé, pourrais-tu me dire pourquoi tu étais si taciturne en arrivant et me dire aussi comment il se fait que tu ne le sois plus du tout ?» Shahzaman répondit « Je ne peux répondre qu'à la première de tes questions. Voilà ce qui m'est arrivé. » Et il raconta son départ, la reine et le cuisinier, et tout ce qui s'en était suivi. Shahriar lui dit « Aucun homme au monde n'a jamais subi un sort plus affreux que le tien. Je serais moi-même devenu fou si j'avais subi une injure aussi effroyable. Dis-moi maintenant, ce qui t'a guéri de cette souffrance, Shahzaman répondit, ce qui m'a guéri, il vaut mieux le voir que l'entendre dire. Voilà ce que nous allons faire. Dès demain matin, partons à la chasse, mais en grand secret, revenons voir ce qu'il faut voir. Dès le lendemain, le roi Shahriar lança une chasse et le palais fut déserté. Mais en grand secret, les deux rois revinrent devant la fenêtre d'où l'on pouvait voir le palais. Et le roi put voir ce qu'il devait voir et que beaucoup d'autres avaient déjà vu avant lui. Et pour la première fois de sa vie, ce roi si puissant découvrit la honte et le doute. Ainsi, ce grand roi nommé Shahriar, qui avait conquis presque la moitié du monde, qui avait soumis l'Inde puis la Chine, se trouva vaincu. Il se retourna vers son frère. Rien ne m'était plus cher que la tendresse, rien ne m'était plus cher que la délicatesse. Elles sont parties en fumée. S'il en est ainsi, fuyons ce palais, fuyons ces folies qui assassinent nos esprits. Nous ne reviendrons que si nous trouvons gens plus misérables que ce que deviennent les rois. C'est ce qu'il jura à Shahzaman, qui jura aussi au matin. Ils étaient partis. Les deux rois marchèrent toute une journée et quand vint la nuit, dormirent sur le sol. Au lever du jour, trouvèrent bientôt une grande plaine. Elle était plantée d'arbres centenaires. Au loin, on voyait le bord de la mer. Au pied d'un des arbres, ils se reposèrent quand ils aperçurent soudain un nuage. Une fumée noire sortait de la la mer. Elle s'élevait jusqu'en haut du ciel. Elle s'étira petit à petit, puis se transforma en génie immense. L'énorme génie avançait tout droit vers l'arbre en dessous duquel ils étaient, vit qu'ils se cachèrent dans les hautes branches. Le génie s'assit dessous sans les remarquer. Le monstre portait un coffre de verre qui était fermé par quatre serrures. Il le déposa en face de lui, sortit quatre clés et ouvrit le coffre. Il en fit sortir une jeune fille, la mit près de lui, elle chantonnait. Il posa sa tête sur ses beaux genoux, et se laissa bercer et puis s'endormit. Quand de son sommeil elle fut certaine, elle regarda attentivement et à gauche, derrière et devant, puis au-dessus d'elle. Elle vit les rois. Elle leur fit signe de venir à elle, par geste ils lui dirent qu'ils ne voulaient pas, qu'ils ne pouvaient pas, sinon ils allaient réveiller le monstre, être mis en miettes. Elle remontra ce qu'elle voulait, sinon elle allait réveiller le monstre. Ils furent contraints de suivre son ordre, descendre de l'arbre et venir vers elle. Elle leur montra ce qu'elle voulait. Ils furent effrayés et ils refusèrent. Elle exigeait d'eux, sans doute possible, qu'ils fassent l'amour avec elle là. Ils s'y refusèrent, elle menaça, ils se résignèrent l'un puis après l'autre. Quand cela fut fait, elle leur ôta l'anneau qu'ils portaient, elle les posa par terre et sortit d'un tout petit sac. Elle en fit glisser tout le contenu devant ses genoux, c'était des anneaux, puis l'un après l'autre, elle les compta.
C'était des soldats, 4 et 5 et 6, c'était des novices, 7 et 8 et 9, dans des habits neufs, 10 et 11 et 12, qui étaient tout rouges. Le génie était amoureux de moi, m'offrit des cadeaux, des petits, des gros. Je n'en voulus pas, il se renfrogna, je les conduisis, il en fut mari. Le 13 et le 20, était médecin, et le 37 était un ascète, le 48 un orthopédiste, le 59 jaune comme un œuf. Il vint m'enlever des bras de ma mère, puis m'emprisonna au fond de la mer, dans un grand palais obscur et désert, gardé par des monstres venus de l'enfer. Le 523 avait mal au foie, le 634 battu comme un plâtre, le 740 n'avait pas de jambes, le 836 mangeait des saucisses. Il fit fabriquer un coffre de verre, clos par des serrures et des clés de fer, pour m'y surveiller ma vie tout entière, de tous les côtés, devant et derrière. Avec le 997, ce fut une fête et des galipettes. Avec le 998, de la gymnastique faite un peu trop vite. Avec le 999, depuis longtemps veuf, ce fut pourtant neuf. Et puis pour finir, avec ces deux rois, j'ai trompé ce monstre mille et une fois. Mille et une fois, il en conviendra, je lui avais dit, j'y ai réussi. Lorsque femme veut, nul homme ne peut la faire changer d'idée et d'envie.
assez averti, les deux rois s'enfuirent se mettre à l'abri. Alors Charia s'écria, ce monstre puissant subit devant nous une tromperie bien plus certaine que la nôtre. Alors qu'il l'a prise et épousée vierge dans la plus grande discrétion. Alors qu'il veillait nuit et jour sur elle dans ce coffre en verre dont il avait toutes les clés. Il se voit trompé, ridiculisé, mille et une fois abusé. Il est donc certain qu'aucun homme au monde ne peut s'opposer aux ruses puissantes des femmes. Puisque c'est ainsi, qu'elles soient chassées, saisies, enfermées, privées de toute liberté, qu'elles soient gardées dans des gynécées par des gens en armes qui n'ont plus de virilité, qu'aux yeux étrangers elles soient cachées, qu'elles soient voilées, que leur visage soit baissé, qu'elles n'aient plus le droit de travailler, le droit de s'instruire, le droit de raconter des contes. Quant aux jeunes filles que la destinée nous fera aimer, qu'on nous les arrache des lèvres. Dès l'aube venue, après les baisers, qu'elles soient tuées, effacées de notre pensée. 3 jours et 3 nuits après leur départ, les rois rejoignirent la chasse qui les attendait. Ils y retrouvèrent leurs compagnons d'armes, levèrent le camp et s'avancèrent vers la ville. Charia rentre en son palais et il saisit la reine et il l'égorge sans pitié. Il fait appeler toutes les servantes, les vraies et les fausses, elles aussi sont égorgées. Il dit au vizir de lui amener une jeune vierge qui soit de famille de prince. Elle est épousée, serrée, embrassée, elle est déflorée, puis au matin elle est tuée. Dès le lendemain, c'est le tour d'une autre fille de soldat. Elle aussi est exécutée, fille de marchand, fille d'artisan. Elles seront toutes tuées. C'est chaque matin l'annonce d'un deuil et c'est chaque soir un nouveau deuil annoncé. On pleure et on prie, on devient muet. Jour et nuit, on tremble devant ce roi pris de folie. Alors une femme s'approche de lui. C'est Scheherazade, la fille du premier ministre. Depuis leur enfance, ils ont l'un pour l'autre un amour secret, mais c'est un amour interdit. Elle vient à lui au lieu de le fuir pour s'unir à lui, pour le ramener à la vie. Sa fille ne peut pas comprendre qu'elle veuille se sacrifier ainsi. Il veut la convaincre de renoncer à son entreprise, mais il ne sait comment s'y prendre. Il ne sait que trop que quand femme veut, nul homme ne peut la faire changer d'avis. Que sa propre fille, dès sa tendre enfance, était extrêmement déterminée. Qu'elle n'acceptait de manger sa soupe que lorsque son père venait lui raconter des contes. Et c'est ce qu'il fait avec l'espérance bien incertaine de la faire changer d'avis. À vouloir se mêler des affaires d'autrui, on risque d'attirer sur soi bien des ennuis. Un fermier détenait un pouvoir merveilleux. Il connaissait le langage des animaux, mais il ne pouvait pas, sous peine de mourir, répéter les paroles qu'il entendait ainsi. Or, il avait chez lui, dans son étable, un bœuf et un âne de race qui se parlaient entre eux. À vouloir s'occuper des affaires d'autrui, on risque d'attirer sur soi bien des ennuis. Un soir que le fermier se trouvait dans la cour, il entendit le bœuf dire à son voisin l'âne « Ah, 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 comme je t'envie, tu travailles si peu, tu t'en vas au marché une fois par semaine et pour cela tu es gâté, soigné, caressé et traité presque comme un humain. Tandis que chaque jour, du matin jusqu'au soir, je tire la charrette, les herses, la charrue jusqu'à la nuit tombée pour à peine dormir et puis le lendemain recommencer encore et en reconnaissance de ces tâches si lourdes, je reçois coups et cris. Le sort est bien injuste. À vouloir s'occuper des affaires d'autrui, on risque d'attirer sur soi
bien des ennuis.
Le lendemain, le bœuf appliqua en tout point, non, l'âne lui répondit, « Si j'étais à ta place, j'aurais depuis longtemps résolu la question. J'aurais fait le malade, je me serais couché, pendant un jour ou deux, je n'aurais pas mangé, et je te garantis que mon sort se serait très vite amélioré. Essaye et tu verras. » Le lendemain, le bœuf appliqua en tout point ce que son voisin l'âne lui avait conseillé. Le maître, qui savait tout, arriva, examina le bœuf, lui donna quelques coups, et comme il savait tout, lui dit « Mon pauvre bœuf, tu parais bien malade. Il faut te ménager. Prenons l'âne à ta place. » Le fermier attela l'âne à une charrue et le fit labourer du matin jusqu'au soir, lui donna coups et cris, lui fit tirer, pousser, transporter du fumier, de l'herbe, des orties. Ce ne fut qu'à la nuit qu'il rentra l'animal épuisé, éreinté jusque dans son étable. À vouloir s'occuper des affaires d'autrui, on risque d'attirer sur soi bien des ennuis. Le bœuf, frais et dispo, regarda le pauvre âne avec reconnaissance et puis lui déclara « Cher ami, je ne sais comment te remercier des conseils avisés que tu m'as prodigués. Jamais je n'ai joui d'un aussi grand confort. Je n'ai fait que manger, ruminer et dormir. » L'âne le regarda et ne répondit rien car il avait compris qu'à vouloir s'occuper des affaires d'autrui, on risque d'attirer sur soi bien des ennuis. C'est le grand vizir qui a raconté la petite fable de l'âne conseillant le bœuf. Il voulait ainsi convaincre sa fille de fuir les ennuis, mais il ne l'a pas convaincue. Contre son avis, elle va s'unir au roi Shahriar. Elle se met à sa merci. Elle vient à lui au lieu de le fuir, pour s'unir à lui, pour le ramener à la vie. Mais elle confie avant de partir à sa sœur cadette le secret de son stratagème, le secret des mots que l'on dit à l'un pour que l'autre écoute alors qu'il ne veut rien entendre. Dans le lit nuptial, après la rencontre, bien avant l'aurore, elle demande Dunyazad. Le roi Shahriar la fait aussitôt chercher pour en terminer au plus vite. La petite sœur vient près de sa sœur et elle la prie de conter encore une fois l'histoire étonnante du très grand calife Haroun al-Rachid que tout le monde chérissait. Et Scheherazade commence à compter sa première nuit qui sera suivie de tant d'autres, commence à filer, commence à tisser, commence à broder l'histoire qui nous a sauvés. Pendant 1000 nuits, cette jeune femme raconta au roi des histoires d'amours interdits. Elle les filait, elle les tissait, elle les brodait, mais au matin les suspendait. Et chaque matin, le roi Shahriar devait à son tour suspendre son arrêt de mort. Il voulait savoir comment finiraient ces histoires d'amour et celles d'Haroun al-Rachid. Pendant 1000 nuits, elle raconta 1000 histoires d'amour à ce roi qui s'en défiait. Mais la nuit revient, la 1001e, qui décidera de l'issue de son stratagème. Et Scheherazade commence à filer, commence à tisser sa dernière histoire, sa dernière et plus belle histoire, celle de l'amour vrai mais est interdit, de Soleil du jour et du prince Ali Ben Bekkar.
Écoute, écoute, petite sœur, écoute, écoute, sans avoir peur, si tu t'endors, il arrivera malheur. Écoute, écoute, petite sœur, écoute, écoute, jusqu'au matin, le soleil est notre destin, l'obscurité est notre chemin. Écoute, écoute, petite sœur, ne ferme pas tes paupières. Si tu t'endors, il arrivera malheur. Écoute, écoute, petite sœur.